Chapitre 20. Dans les Actes, il nous est simplement dit que Paul a beaucoup exhorté les disciples en Macédoine, qu'il est allé en Grèce et que, pour éviter les embûches des Juifs, il est retourné en Asie en passant par la Macédoine. Le verset 4 nous donne des noms de ses compagnons de voyage, bien que ceux-ci aient pris les devants et l'aient attendu à Troas. Dès le verset 5, Luc emploie de nouveau le pronom « nous ». À ce moment, il a donc rejoint le groupe. Une traversée de 5 jours ramène Paul, Luc et les autres à Troas où peu de temps auparavant le Seigneur avait ouvert une porte. Les versets qui suivent montrent qu'il rencontre cette fois encore un grand intérêt pour les choses de Dieu dans cette ville. Paul ne passe à Troas qu'une semaine. C'est au cours de celle-ci qu'a lieu la réunion mémorable dont nous parlent les versets 7 à 12. Il nous donne une image très belle de la simplicité et du zèle qui caractérisait cette époque. Les disciples avaient l'habitude de se réunir pour la fraction du pain, la scène du Seigneur, le premier jour de la semaine. Ce n'est pas le sabbat qui avait été choisi, mais le lendemain, le jour de la résurrection du Seigneur, bien que ce n'ait pas été un jour férié comme l'aurait été la veille pour les croyants d'entre les Juifs. Aussi les chrétiens se rassemblaient-ils le soir, une fois la journée de travail achevée. Ils se réunissaient dans une chambre haute. On ne connaissait pas les églises. Disposant de très peu de temps, Paul saisit l'occasion pour leur faire un discours. Leur intérêt est si grand qu'ils passent toute la nuit à écouter ses paroles. Nous pouvons facilement nous représenter la scène. La chambre haute remplie d'auditeurs, les jeunes assis sur le rebord de la fenêtre, les nombreuses lampes allumées ajoutant à l'atmosphère oppressante de l'air raréfié de la pièce, la brusque interruption causée par le sommeil et la chute de Tiche. Pourtant, la puissance de Dieu est si manifestement à l'œuvre que cet incident, au lieu d'interrompre la réunion et de distraire les esprits du message de Paul, touche et affermit les cœurs des auditeurs qui restent jusqu'à l'aube pour écouter. L'apôtre allait maintenant entreprendre son dernier voyage à Jérusalem. La question de savoir si c'était la bonne chose reste ouverte. Mais il est évident que l'Esprit de Dieu agissait par lui comme autrefois. Paul n'a fait aucun miracle plus remarquable que celui-ci. Le récit est marqué par l'absence de tout cérémonial et de toute officialité, mais il est empreint de puissance. Aujourd'hui, dans la chrétienté, le cérémonial prend toute la place et la puissance est absente. Quel sujet de tristesse ! Le jour venu, Paul quitte Troas à pied. Luc et les autres compagnons partent par mer et le prennent à Assos. Arrivé à Milet, il fait venir les anciens de l'assemblée d'Éphèse. Sachant qu'il ne les reverrait plus, il veut leur délivrer un message. Cet appel touchant semble se diviser naturellement en 3 parties. Dans la première partie, qui couvre les versets 18 à 27, il passe en revue son propre ministère parmi eux. Il commence par ces paroles. Vous savez de quelle manière je me suis conduit envers vous tout le temps, depuis le premier jour. Puis, après avoir montré comment il a servi, il continue en disant en quoi avait consisté son service. Dans l'un des aspects comme dans l'autre, il peut bien nous servir de modèle. D'abord, son travail était de servir. Il n'était pas un grand dignitaire ecclésiastique dominant le troupeau de Dieu, mais un serviteur. Il servait certes les saints, mais en le faisant, c'est premièrement le Seigneur qu'il servait, et cela depuis le premier jour jusqu'au dernier. En outre, il servait en toute humilité. Les chapitres précédents nous l'ont montré. Il n'était pas le genre d'homme qui attend que tout le monde lui fasse place ou le serve. Il aidait les autres en travaillant de ses propres mains. Et tout cela avec des larmes, et au milieu de beaucoup d'épreuves suscitées par les Juifs. Les larmes parlent d'une profonde sensibilité et d'exercice de cœur, tandis que les épreuves évoquent la confrontation perpétuelle aux difficultés et à l'opposition. Paul était aussi caractérisé par la fidélité avec laquelle il déclarait la vérité et l'appliquait aux saints. Il ne recherchait pas la popularité facile qu'on acquiert en taisant les choses peu agréables à entendre, mais avait toujours leur profit en vue. En outre, il ne se limitait pas à annoncer publiquement l'Évangile, mais il remplissait ce service de maison en maison, un travail beaucoup plus discret, mais souvent combien plus efficace. Tout ceci montre de quelle manière il s'était conduit envers eux. Mais il y a aussi ce dont il parle au verset 24, sa consécration totale au ministère qui lui avait été confié et à celui duquel il l'avait reçu. Il avait voué sa vie à ce service et rien ne pouvait l'en détourner, ni la perspective des difficultés, ni même celle de la mort. Lorsqu'un serviteur de Dieu allie à sa fidélité une consécration qui ne fléchit pas devant la mort, son ministère sera immanquablement accompagné de puissance. Il mentionne ensuite trois sujets qui ont marqué son ministère. D'abord, l'évangile qui lui avait été confié. Il était appelé à rendre témoignage partout et à tout le monde de la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile proclame la grâce de Dieu qui a été révélée en Christ dans sa mort pour nos péchés et sa résurrection pour notre justification. De notre côté, il demande la repentance et la foi. Voilà le sujet constant de sa prédication. Il avait aussi prêché le royaume de Dieu, cela non pas parmi tous, mais parmi vous tous. C'est-à-dire que partout, il avait prêché le royaume parmi les disciples. Évidemment, cela a une portée actuelle. Lorsqu'il annonçait les choses à venir, il parlait sans doute du royaume qui sera établi publiquement, mais il leur rappelait aussi qu'en recevant Christ comme leur Seigneur, ils étaient déjà placés sous l'autorité de Dieu et il leur montrait la signification pratique de la soumission à la sainte volonté de Dieu. On peut remarquer que, dans ses épîtres, Paul ne se contente jamais de présenter la vérité abstraitement. Il met toujours l'accent sur la conduite qui, selon la vérité, répond à la volonté de Dieu pour eux. Puis, troisièmement, il leur avait annoncé tout le conseil de Dieu. Il les avait amenés dans la lumière de tout ce que Dieu s'est proposé pour Christ, pour l'Église et pour le monde à venir. Ils ont ainsi eu connaissance de ce qui, jusqu'alors, avait été gardé secret et ont vu que Dieu avait des pensées plus élevées que ses propos révélés antérieurement à l'égard d'Israël. C'est ce troisième point de son ministère qui avait soulevé l'opposition furieuse d'un grand nombre de ses auditeurs juifs et qui aboutira finalement à son emprisonnement. Il peut ainsi dire « Je n'ai mis aucune réserve à vous annoncer ». Si seulement il avait usé d'un peu de retenue en abordant ce sujet de son ministère, son service se serait déroulé beaucoup plus paisiblement et il se serait évité bien des troubles. Car l'introduction des gentils, selon la vérité de l'Église, fait partie du conseil de Dieu. Il le savait, et néanmoins il n'a pas reculé. Le ministère complet de la parole de Dieu, aujourd'hui, doit embrasser ces trois sujets. L'évangile de Dieu, le royaume de Dieu et le conseil de Dieu. Dans la seconde partie de son discours, versets 28 à 31, il exhorte et avertit les anciens d'Éphèse. L'Esprit Saint les avait établis surveillants au milieu du troupeau qui est l'assemblée de Dieu. Ce troupeau n'était pas le leur, mais celui de Dieu. Par droit d'achat. Ils devaient le nourrir ou le paître. Mais avant tout, ils avaient à prendre garde à eux-mêmes, car comment celui qui ne veille pas d'abord sur lui-même pourrait-il prendre soin du troupeau? En outre, ils devaient user de vigilance à l'égard des adversaires, se souvenant que pendant 3 ans, Paul n'avait cessé de les avertir avec larmes. Est-ce que, faute d'être exercé, ce ministère d'avertissement n'a pas presque complètement disparu? Paul met ici les anciens en garde contre 2 sources principales de mal. D'abord les loups redoutables venant de l'extérieur, puis les hommes pervers qui se lèveront d'entre eux-mêmes. Par loup, l'apôtre entend sans doute ceux qui agissent comme véritables agents du diable, ceux qui, selon les paroles de Pierre, introduisent des sectes de perdition. Cette prédiction s'est pleinement réalisée. L'histoire de l'Église en témoigne. Comme aussi du mal opéré par ceux qui se sont levés du milieu des anciens eux-mêmes pour annoncer des doctrines perverses ou perverties. Ces hommes sont très probablement de vrais croyants, mais qui tordent ce qu'ils annoncent et par là pervertissent la vérité. Ils se présentent comme chefs de parti et centre d'attraction à ceux qu'ils entraînent. Au lieu de conduire à Christ, ils attirent à eux. N'avons-nous pas dans ces paroles de Paul une esquisse de ce que la chrétienté est devenue aujourd'hui? C'est pour cette raison sans doute que nous ne trouvons dans les Écritures aucune instruction relative au maintien de la fonction d'ancien d'une manière officielle après le départ de l'apôtre. Si c'est d'entre eux que doivent se lever ces ouvriers d'iniquité, autant reconnaître et accepter avec gratitude ce que Dieu se plaît à susciter sans qu'ils soient désignés officiellement. Quant aux hommes qui disent des choses perverses, leur investiture ne ferait que ratifier ce qui est faux. Dans la troisième partie de son message, Paul indique les ressources qui demeurent malgré tout. Il prononce peu de paroles. Elles sont contenues dans un seul verset. Mais leur portée est d'un poids et d'une importance immense. Notre grande ressource est en Dieu, et non pas dans l'homme. Il ne les recommande pas aux autres apôtres. Il ne pouvait pas les recommander aux anciens, puisque c'est à des anciens qu'il s'adresse, et que c'est d'entre eux que s'élèveraient des ouvriers d'iniquité. Dieu, et Dieu seul, est la ressource des siens. Il a donné sa parole dans laquelle il se révèle. Autrefois, il parlait par Moïse, comme l'Ancien Testament nous le rapporte. Il s'agissait là de la parole de ses exigences envers les hommes. Maintenant, il parle en Christ, dans le Nouveau Testament, et c'est la parole de sa grâce. C'est à cette parole que nous sommes spécialement recommandés, car elle a la puissance de nous édifier dans la foi et de nous donner, en puissance et en jouissance spirituelle avec tous les sanctifiés, cet héritage qui nous appartient. L'héritage est à nous par la foi en Christ. Voir chapitre 26, verset 18. Mais il nous est annoncé en puissance par la parole de sa grâce. On ne saurait surestimer l'importance de ce verset 32 pour nous aujourd'hui. Dieu et sa parole demeurent, quoi qu'il arrive. Nulle puissance de mal ne peut toucher Dieu. Il reste et nous pouvons être en relation avec lui par la prière, dans la communion, dans les actions de grâce et dans l'adoration. Sa parole demeure, car dans sa providence, il a veillé sur elle et nous l'a conservée. Elle est certes l'objet d'attaques incessantes de la part de l'ennemi. Trop vite, elle a été plus ou moins étouffée par les traditions des pères. Puis elle a été ensevelie sous une langue étrangère et soustraite au peuple. Maintenant qu'elle est accessible à tout le monde, elle est violemment critiquée et on cherche par tous les moyens à détruire son autorité. Imitant Judas, des hommes éminents l'honorent par un baiser et de belles paroles. « Je te salue, maître dont le langage est sublime. » Mais c'est pour mieux la livrer à ceux qui la dépouilleront de tout vestige d'autorité divine. Et néanmoins, elle reste la ressource de tout cœur croyant et obéissant. Paul termine son discours en mentionnant une nouvelle fois la droiture et la sincérité qui l'avaient caractérisée. Il n'avait pas cherché à s'enrichir, loin de là. Il avait plutôt donné aux autres. Il cite une parole du Seigneur Jésus qui ne se trouve pas dans les évangiles, une parole qu'il avait mise en pratique. Il leur a déjà dit plus haut qu'il ne leur avait rien caché et qu'il les avait enseignés, verset 20. Et il leur répète qu'il leur a tout montré. Il mettait en pratique devant eux ce qu'il leur prêchait. Et l'exemple parle avec puissance. Paul a été appelé à nous servir de modèle à la fois comme saint et comme serviteur. Aussi le discours dans lequel il passe en revue son service nous a-t-il été conservé dans cet écrit inspiré. Et si nous nous mesurons à lui, nous avons bien lieu d'être profondément humiliés. Ayant dit aux anciens tout ce qu'il avait à leur dire, il se met à genoux et prie avec eux. Et ils versent tous beaucoup de larmes. Quelle scène profondément émouvante! L'expression « couvrir de baisers » employée ici est celle que l'on trouve aussi en Luc 15 lorsque le père court au devant du fils prodigue et se jette à son cou. Pourtant, ne peut-on pas voir un élément de faiblesse dans le fait que ce qui les peinait le plus, c'était qu'ils ne le reverraient plus? N'aurait-il pas dû être affligé avant tout par la pensée que l'assemblée de Dieu allait être ravagée par des loups et corrompue par des hommes pervers?